La quête de la vie bonne.
La quête de la vie bonne.
Une recherche en Cévennes sur le Cosmégen et sur le Mont Lozère.
Mad. Une collecte de récits de vie.
Pour comprendre ce qui contribue un peu,
beaucoup,
à la folie.
À votre quête de vie bonne.
Du 21 au 24 mai,
à Florac et aux alentours,
Mad.
Des rencontres,
des ateliers,
des discussions.
Et le mercredi à partir de 14h,
un plateau exceptionnel.
Sur Radio Bartas, 107 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Bartas 107 FM. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une recherche exploratoire qui a eu lieu en sud Lozère, qui a été portée par une équipe de 10 chercheuses et chercheurs qui viennent d'ici et d'ailleurs, qui se sont intéressés à la question de la recherche de la vie bonne en Cévennes et qui clôturent cette première année de recherche par 3 jours de restitution. Donc, on aura l'occasion d'animer des ateliers, des débats, des conférences à Florac et aux villages alentours.
On ouvre ces journées d'échange avec cette émission en direct sur Radio Bartas pour parler et présenter ce projet. Merci Radio Bartas pour l'accueil. Donc pourquoi cette histoire de vie bonne? Qui sont ces chercheuses et chercheurs venus d'ici d'ailleurs? Et qu'est-ce que cette recherche? Et vers où va-t-elle? Vous pouvez nous retrouver dès demain, le jeudi 22 mai à 9h, pour un stand animé sur le marché de Florac, en présence du crieur de la Croix-Rousse, représentant du ministère des Rapports Humains. De 14h à 17h, demain toujours, avec un atelier participatif sur les thèmes forts de notre recherche, donc on va en parler dans l'émission. Ce sera au tribunal de Florac, vous pouvez venir quand vous voulez, et c'est en accès libre. Et à 18h, toujours demain jeudi, on vous propose un atelier en mixité choisi sur les thèmes féminisme et vie queer en Cévennes. Et c'est un atelier qui sera exceptionnellement réservé aux femmes et personnes LGBTQIA+, pour offrir un espace pour libérer la parole un peu en confiance et parler de nos vies lozériennes, de 18h à 20h à L'Encrier à Florac. Le vendredi, retrouvez-nous le vendredi 23 mai après-demain, on sera en itinérance, donc c'est l'équipe qui part sur le Cosmégen dans vos villages à partir de 14h, donc à la rencontre des gens qui ne peuvent pas venir à Florac ou qui ne seront pas dispo à d'autres moments. Vers le sud du Mont Lozère de Fraissinet à 14h, au relais de l'Espinasse à 17h30, vendredi toujours, et samedi, on remet ça en itinérance, donc en Cévennes, de Vébron à 10h à Sainte-Croix-Vallée-Française à 14h. Pour finir, à 18h, samedi toujours à Florac, avec une conférence inversée, en partant de vos questions, et une soirée festive avec Savoir en chantier à L'Encrier à Florac. Tout est gratuit et sans inscription. Si besoin de plus d'informations, vous pouvez contacter Isabelle Guérin au 06 72 06 52 66.
Donc ce projet, il est à l'initiative de deux chercheuses, Isabelle Guérin, donc, qui est socio-économiste, directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, et membre du Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Elle a majoritairement travaillé en Inde. Et nous sommes également en présence de Blandine Destremaux, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique et membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour Isabelle et Blandine.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et nous sommes aujourd'hui également en présence de Venkata Subramayan, qui est donc sociologue et chercheur à l'Institut français de Pondichéry en Inde. Bonjour Venkata.
Bonjour, Vanakkam.
Hello.
Et donc c'est nous aujourd'hui qui allons, et Yael, qui allons présenter et animer ce plateau. Donc moi je me présente, je m'appelle Yael, je suis née à Sainte-Croix-les-Françaises et j'ai grandi en Lozère.
Et je m'appelle Aimé, j'ai grandi aussi en Lozère à Artigues sur la commune de Saint-Laurent-de-Trèves. Et ça fait quelques années qu'on s'intéresse un peu à l'histoire du pays où on a grandi. On est parti à 18 ans pour faire des études, entre autres, vers les sciences sociales et humaines. Et ça fait donc quelques années qu'on a commencé un peu à venir interroger des gens, enregistrer aussi des gens du coin, et qu'on fait un peu des allers-retours dans les Cévennes pour ces questions-là, et qu'on se questionne un peu sous quelle forme on aurait envie de mettre en forme tout ça. Donc on pense à des podcasts, et potentiellement on a un projet de livre dont on vous parlera à la fin de l'émission. Et donc l'année dernière, on nous a mis en lien avec cette équipe de recherche qui nous a finalement intégrés donc en septembre au projet avec qui on bosse depuis, et notamment pour ces journées qui arrivent de restitution de la recherche.
Donc aujourd'hui, on vous propose sur Radio Bartas une discussion autour de cette recherche, de ce qui l'a motivée, de comment elle s'est réalisée et quelles sont les potentielles suites. Donc pour commencer, Isabelle, est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue l'envie d'engager une recherche en Lozère, donc qui est aussi le département où tu es née et as grandi?
Eh bien, merci déjà pour l'invitation, merci Radio Bartas. Voilà, je crois qu'on est ravis de démarrer nos journées de restitution par cette émission. Alors, comment est venue cette recherche? Donc moi, comme tu l'as dit, je suis socio-économiste, c'est-à-dire que j'ai une formation d'économiste, mais en considérant que l'économie est toujours intégrée, articulée, entremêlée avec des rapports sociaux, avec des institutions politiques, sociales, culturelles, ce qui est une vision quand même assez particulière de l'économie. Et ça fait longtemps que je travaille un peu dans une double perspective. La première qui consiste à regarder comment la face noire du monde, on va dire, et je crois qu'on est dans une phase particulièrement noire aujourd'hui, c'est-à-dire comment les processus de mondialisation, de financiarisation, c'est-à-dire le fait que tout un tas de choses de la vie soient transformées en actifs financiers, et comment ces différents processus, finalement, s'adossent à des inégalités qui existent déjà, des inégalités de genre, des inégalités raciales, des inégalités d'appartenance sexuelle, religieuse, des inégalités nord-sud, bien sûr. Comment à la fois ces processus s'adossent à ces inégalités et en même temps les renforcent. Et donc c'est vrai qu'on est dans une phase de creusement des inégalités qui est absolument terrifiante. Et en même temps, j'ai toujours été intéressée par la manière dont des collectifs à différentes échelles s'organisent, se mobilisent, résistent et trouvent d'autres manières de faire de l'économie, trouvent d'autres manières de faire de la politique. Donc j'ai toujours mené ces recherches dans des pays dits des Suds, puisque je dépends d'un institut qui est spécialisé sur cette partie du monde. Et en même temps, tu l'as dit, je suis née ici, j'y reviens toujours parce que mes parents ont toujours une maison ici, je suis très attachée à ce territoire, j'adore le plein air, et ici on est c'est quand même le paradis du plein air. Et donc ça faisait longtemps que j'avais aussi envie de mieux comprendre ce territoire. Et aussi d'inverser un peu les perspectives, dans la mesure où voilà, je vais en Inde depuis une vingtaine d'années. Je travaille depuis 20 ans avec ce collègue Venkata Subramanian qui est ici aujourd'hui, avec Gena Otto, qu'on entendra aussi un peu plus tard, avec Renata, qui est là aussi. Et il y avait cette idée d'inverser un peu les regards et de faire venir des collègues d'ailleurs, avec l'idée qu'un regard décentré, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, pouvait nous apporter un regard éclairant sur ce territoire qui partage un certain nombre de points communs avec les territoires de nos collègues. On est dans une région, celles et ceux qui nous écoutent le savent probablement mieux que moi, qui a quand même vécu des moments difficiles de désertification, de perte de population, puisque la Lozère, en particulier la Lozère du Sud, n'a jamais attrapé le train de la modernité, modernité entre guillemets. Elle a perdu beaucoup de population, ce qui posait tout un tas de questionnements sur comment revitaliser ce territoire, comment diversifier les économies locales, etc. Et puis, depuis un certain nombre d'années, on assiste quand même à un regain à la fois de population, mais aussi à un foisonnement d'initiatives de toutes sortes sur le plan économique, puisque arriver à se maintenir ici, il faut quand même faire preuve d'innovation. Et ce qui résonne beaucoup avec les territoires au Brésil et en Inde de nos collègues. Et donc, il nous semblait, avec Blandine, qui va parler après moi, que ça pouvait être vraiment extrêmement utile d'avoir ce regard-là. Et donc, comment est né ce projet sur un coin de table avec Blandine Destremo, qui est une collègue amie de longue date. Et peut-être que je peux la laisser compléter, puisque ce projet est né ensemble, en fait.
Oui, tu peux, si tu as envie de nous dire un mot, Blandine.
Oui, merci aussi à Radio Bartas, merci à vous et Meyel d'avoir préparé cette émission et préparé les questions que vous pourriez nous poser. Et merci à tous les collègues qui sont avec nous dans cette équipe. Donc moi, je suis économiste de formation également. Je suis maintenant devenue sociologue, enfin c'est comme ça que je me définis. Et j'ai travaillé pendant 10 ou 15 ans sur des questions liées à Cuba. En fait, je travaille à Cuba, je fais de la recherche sur Cuba. Et je crois que si je me souviens bien, je suis allée vers Cuba aussi pour étudier, me plonger, m'immerger un peu dans une société qui s'est voulue utopique et qui voulait construire autre chose, construire d'autres modes de relations, d'autres modes de solidarité et de partage, et qui, comme la plupart des gens le savent aujourd'hui, est en crise profonde, mais dans lequel émergent des collectifs qui cherchent à retrouver en fait l'esprit utopique, mais d'utopie concrète et réelle finalement des belles années ou des belles décennies de la société cubaine. Par ailleurs, je suis impliquée avec beaucoup de personnes de la nouvelle génération ou de la jeune génération qui remettent en cause la modernité urbaine, qui remettent en cause la modernité de consommation, d'impact carbone, de destruction environnementale, et qui veulent prendre le large, plus ou moins loin de l'organisation urbaine de la société, d'une consommation parfois énorme, enfin trop importante en tout cas, pour vivre autre chose, que ce soit dans des territoires très reculés ou même un peu en marge du centre des villes. Les thèmes de recherche qu'on a construits avec Isabelle et qu'on a conçus avec Isabelle et progressivement avec l'ensemble de l'équipe visaient aussi à examiner ces lieux, ces alternatives, ces manières de s'organiser finalement dans des formes de frugalité qui sont parfois compliquées, en fait, qui mettent à l'épreuve également les motivations des gens, mais qui permettent de vivre autre chose et d'organiser autre chose. Et les trois thématiques vraiment qui nous intéressent beaucoup, c'est la question du genre, puisque ce projet est soutenu et financé par la Cité du Genre, et que c'est donc dans une perspective de genre qu'on l'a inscrite. Alors on va en reparler certainement, mais la question du genre, c'est pas seulement l'organisation du travail entre les hommes et les femmes, c'est aussi la manière de se concevoir dans ses identités, dans des relations qui ne sont pas toujours calquées ou imprimées par nécessairement des relations hétérosexuelles ou tout à fait binaires, comme vous allez le mettre en œuvre dans l'atelier de demain. C'est aussi examiner très concrètement si ces utopies concrètes ou ces alternatives vécues et imaginées et parfois travaillées au jour le jour, puisqu'on n'est pas dans une utopie béate non plus, si ces alternatives permettent en fait de remettre en cause des relations qui ont pu être très binaires ou très avec des formes de domination et de soumission dont on est consciente. Par ailleurs, moi je m'intéresse très particulièrement aussi aux formes de solidarité, et en particulier au moment où arrive ce qu'on peut qualifier de vieillesse. En fait, je trouve que la vieillesse, comme d'autres moments de l'existence, sont des moments où on peut examiner ce qu'il advient des solidarités, ce qu'il advient de la capacité d'un collectif ou d'une société à intégrer l'altérité de capacité. Donc à remettre en cause peut-être des modèles un peu capacitisme, je ne sais pas exactement comment on dit. Et les deux autres choses que je veux juste rajouter avant de vous laisser de nouveau la parole, c'est la question des temporalités, qui est très importante dans mon travail de recherche. C'est aussi un prisme au travers duquel on peut examiner les partages, la division du travail, les partages des responsabilités, les superpositions d'engagement. Et probablement que la recherche de la vie bonne, c'est l'hypothèse qu'on avait faite au début et je pense qu'on l'a retrouvée largement, la recherche de la vie bonne s'ancre aussi dans un désir de vivre autrement le temps de vie, le temps de la journée, le temps des saisons, le temps de la nature, le temps des autres, du vivant non humain, et de construire à travers ces temporalités aussi des relations de meilleure qualité, de prendre le temps aussi de parler, d'échanger, de regarder, d'observer, de contempler, peut-être de dormir aussi, de créer et de déployer en fait des efforts et des engagements gratuitement, donc de sortir un peu aussi de la marchandisation du temps.
Merci. Avant de re-rentrer dans ce vif du sujet dans lequel vous êtes déjà entré, sur ce sujet de la vie bonne, aussi en pensant un peu à un audimat qui serait peut-être pas initié aux questions de recherche et de pourquoi on fait de la recherche et comment, tout simplement, on voulait vous demander en quelques mots qu'est-ce qu'une recherche exploratoire. Donc c'était cette année, vous l'avez définie comme telle, comme potentiellement une première phase aussi de recherche exploratoire. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire de mots?
Alors, Blandine disait, on a donc eu un financement de la Cité du Genre, qui est un institut de l'Université Paris-Cité, et qui, effectivement, accompagne les chercheurs en leur permettant de tester une idée, de tester une méthode. Et donc là, on avait donc cette envie de mieux comprendre comment un territoire comme le sud de Lozère fonctionne, qui sont ces gens qui sont venus s'installer, qui sont ces gens qui sont restés, utilisant ce qualificatif de vie bonne, parce qu'il nous semblait correspondre aux aspirations d'un certain nombre de personnes qui ne seraient pas à la recherche d'une vie matérielle, marchande, mais plutôt à la recherche d'une vie de qualité. Et ce terme a aussi l'avantage de faire écho à tout un tas d'initiatives dans d'autres régions du monde, en particulier en Amérique du Sud, dont sont originaires un certain nombre de nos collègues, et où dans ces pays, ce terme de vie bonne a même à la fois une longue histoire et puis est inscrit dans la constitution d'un certain nombre de ces pays et donne donc lieu à tout un tas d'initiatives, y compris sur le plan politique. Donc voilà, il nous semblait que ce terme était quand même embrassé large, si j'ose dire. Et donc, un projet exploratoire, l'idée, c'est de... quand on fait de la recherche, on n'est pas certaine que les questions aient du sens. On est aussi toujours en train de se questionner sur le type de méthode. Et la qualité d'une méthode, c'est partie prenante d'un protocole de recherche. Et là, en l'occurrence, le côté expérimental, c'était l'idée de ce regard décentré, alors qu'il se fait beaucoup dans les contextes post-coloniaux, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de Français comme moi qui vont en Inde, qui vont à Cuba, avec cette idée aussi que l'altérité, comme disait Blandine, va produire un regard différent et nous permet à la fois de mieux comprendre ce qui se passe en Inde et ce qui se passe à Cuba, mais qui peut aussi nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe en France. Et donc là, l'idée, comme je l'ai déjà dit, c'était d'inverser le regard, avec l'idée que nos collègues auraient un regard certainement décalé et intéressant sur des choses qui nous paraissent évidentes, mais qui finalement ne le sont pas pour des gens extérieurs. Alors après, est-ce qu'on est sûr que cette méthode va fonctionner ? Donc l'idée, c'était de tester cette méthode. Il y a aussi une dimension qui est très singulière, qui est celle qu'on pourrait qualifier d'ethnographie collective. C'est-à-dire qu'on est 10, et le groupe s'est enrichi au fil des rencontres. Donc vous, Yael et Aimé, comme vous l'avez dit, vous nous avez rejoints en cours de route. Et donc on est 10 de genres différents. Donc on est un certain nombre de personnes à nous qualifier de femmes, il y a des hommes, il y a des personnes plutôt queer, il y a des différentes couleurs de peau, différentes générations, différentes disciplines, socio-économie, sociologie, gestion, socio-écologie, anthropologie. Et avec l'idée que cette multiplicité de positionnements, à la fois en termes d'appartenance plus ou moins lointaine au territoire, en termes de genre, en termes d'âge, en termes d'expérience professionnelle, en termes de discipline, peut nous permettre de mieux comprendre une réalité complexe. Quand on a une méthode qui est foncièrement qualitative, c'est-à-dire qu'on est allé, on s'est basé principalement sur ce qu'on appelle des histoires de vie. On discute avec des gens et on leur demande de raconter leur trajectoire et de mettre la focale sur ce qu'ils et elles souhaitent mettre en avant. Et donc un défi permanent dans ce genre d'exercice, c'est qu'il y a toute une dimension interprétative, et une règle de rigueur de base, c'est ce qu'on appelle la triangulation, ou de manière peut-être plus simple, le recoupement. Et donc le fait d'être à plusieurs pour faire cette interprétation est un élément central dans la validité de l'interprétation, en fait. Et donc on a eu tout un tas de très concrètement, on est trois ou quatre à nous entretenir avec une personne, éventuellement plusieurs, et ensuite on interprète collectivement ce qu'on a entendu. Tout le monde n'a pas entendu la même chose, tout le monde n'a pas compris la même chose, et ce croisement des regards, pardon, est vraiment un élément fort de validation de ce qu'on a observé. Et ce dernier point par rapport à cette démarche exploratoire, c'est le fait de... est-ce que la question qu'on se pose a du sens ?
pour les personnes qu'on rencontre. Est-ce qu'elle a du sens pour un certain nombre d'institutions, d'organisations qui sont inscrites dans ce territoire et qui toutes œuvrent pour améliorer les conditions de vie sur ce territoire? Est-ce que ce qu'on fait les intéresse, pourrait les intéresser? Et donc là, on est à cette étape exploratoire, on est à son aboutissement. Et donc, on verra à l'issue de ces 3 jours si ça fait sens de poursuivre, si nos questionnements résonnent avec ceux des populations et des institutions du territoire. Bon, a priori, ça a plutôt, me semble-t-il, bien fonctionné. Mais les 3 jours qui arrivent vont vraiment être un peu le test pour savoir si on poursuit cette phase exploratoire ou pas.
Merci Isabelle pour cette belle explication. Ça donne envie un peu d'en savoir plus sur les résultats de la recherche, sur les dimensions de la vie bonne qui se sont dégagées de cette première recherche exploratoire. Donc peut-être Venkata, tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce projet, qu'est-ce que tu as observé, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de vie bonne.
Et peut-être juste aussi te présenter un peu d'où tu viens, ton positionnement aussi au niveau de la recherche.
Thank you, Radio Bharatas, and also the listeners, and also the organizers, our friends, and researchers from Vibhon. It is very fascinating places that I observed. I am from India, from South India, working at the French Institute of Pondicherry as a researcher sociologist. Last 3 decades, I working on the rural transition mainly in India and also in Tamil Nadu.
Donc, je vais traduire de manière non professionnelle. Donc, Venkata est un chercheur à l'Institut français de Pondichéry, donc en Inde du Sud. Et depuis 3 décennies, il travaille sur ce qu'il appelle des transitions rurales en Inde du Sud et aussi au Tamil Nadu.
And I just give some points that what are the transition which is happening in the region, and also we can generalize all over India. Mainly we can see that last 2 decades at least, the rural are getting back means back to agriculture. So.
Donc ce que dit 24, c'est que la transition qu'on peut observer depuis 3 décennies, donc une trentaine d'années dans le sud de l'Inde, et c'est aussi ce qui se passe dans l'Inde entière, c'est qu'en fait il y a un retour des ruraux vers les zones rurales et agricoles.
So there are different reasons. One is that the government, strong government policy also, they don't want to fill up the urban and they want to create a rural employment. Rural employment means employment around the agriculture.
Donc c'est aussi, ça répond aussi à des politiques publiques qui ne veulent pas renforcer encore l'urbanisation en Inde et qui veulent favoriser par des orientations de politique publique le développement de l'emploi dans les zones rurales et donc particulièrement de l'emploi agricole.
Women participation in agriculture is continuously increasing in India thanks to maybe due to the mechanization. The mechanization completely taken out the men's job, so the women are occupied here. And also there are different government projects just to settle the rural people from the village and to continue in agriculture.
Donc la participation féminine au travail agricole est en croissance, en partie grâce à la mécanisation, puisque la mécanisation permet aux femmes de plus participer au travail agricole. Il dit qu'il n'y a plus de travail qui sont spécifiquement masculins, et c'est donc accompagné par des politiques publiques.
India is one of the country where the infrastructure, urban infrastructure is going very fast, so it absorbs a lot of manpower, and the men can able to earn income and last 2 decades at least they are investing in agriculture.
Le retour à la campagne s'explique, ou dans les zones rurales, s'explique également par le fait que pendant la phase de modernisation et d'urbanisation, les hommes ont pu, en particulier les hommes, ont pu obtenir de bons emplois dans les zones urbaines et donc accumuler des capitaux pour investir dans l'agriculture.
And there are different state government policies, mainly National Employment Guarantee Act, mainly giving job to the women, and also different housing projects, free electricity to the farmers.
Donc il y a différentes politiques publiques et interventions publiques. Il y a la loi d'emploi garantie qui garantit une centaine de jours par an aux personnes pauvres dans un emploi qui est rémunéré largement publiquement. Il y a des politiques aussi qui favorisent le logement.
And also that, you know, the people are also come back from the urban to the native villages for different reason. Not only to finding the employment, and also they have some kind of attachment to the village.
Et le retour vers les zones rurales s'explique dans les villages, s'explique de différentes façons, pas seulement pour créer de l'emploi ou trouver de l'emploi, mais également par un attachement particulier à la vie du village et à leur village où il y a une maison, un temple et différents festivals.
In this project we born in the Lozar region, I find there are a lot of similarities that people also, the state government also have the different policies, Park the Seven also have the different policies. State policies, just to bring back the people.
Donc lui, il trouve pas mal de similarités avec ce qui se passe dans les Cévennes, où il, la manière dont il a observé les choses, c'est de voir que les politiques publiques, qu'elles soient au niveau étatique ou au niveau local, œuvrent à attirer les gens vers ces zones rurales qui ont été en particulier désertifiées par les migrations.
So we can see that there are a lot of people also come back to the village, come back to the Lozar region, but there are some kind of difference where in India, at least in Tamil Nadu region, the people don't go back to the village not finding a job opportunities, okay, because they already have kind of strong root in the rural. But that makes difference in the Lozar region, what I found that.
Donc, il a constaté que une des grandes différences qui lui a attiré son attention, c'est qu'en Inde, en fait, les gens retournent avec des ancrages matériels, une maison, ils retournent vers leur village où ils ont des attachements particuliers, comme on vient de le dire. Alors qu'en Lozère, les gens vont quelque part sans nécessairement que ce soit un retour, sans nécessairement qu'il y ait un emploi à la clé et sans nécessairement avoir déjà une maison ou une partie de leur histoire familiale en Lozère.
The interview that we made it in the Lozère region, they all talk about we want to come back to the region because we have a good life here and also the good nature here and also the government also providing, state also providing a lot of facilities.
Donc la raison pour arriver en Lozère, c'est parce qu'il c'est la recherche de la vie bonne. C'est aussi la recherche d'opportunités économiques, mais c'est aussi en sachant que le gouvernement va favoriser en fait les conditions d'installation. Et je rajoute que j'ai oublié la nature aussi qui est un facteur d'attraction.
Part of my project in this my activity in this project is just to make some kind of comparative between the region that I come from in India and also to see how we can what are the similarities where we can go together.
Donc en fait, il conclut en disant que c'était très intéressant pour lui d'avoir ce point de vue de différence et de similarité. Et je rajoute moi, donc Blandine Destremo, que même si parfois on a l'impression que c'est très très éloigné entre le Tamil Nadu et la Lozère, le regard de 24 nous a vraiment permis de remettre en question certaines choses qui pouvaient aller de soi, et en particulier le rôle de l'État et des institutions publiques.
Merci.
Peut-être qu'on peut aussi, vous, Isabelle et Blandine, vous êtes plus intéressée, toi, pour ta part, Isabelle, plutôt sur les questions de matérialité, d'économie, et les questions de genre. Blandine, sur les questions de temporalité, de solidarité, comme tu disais. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir sur ces questions-là, ce que vous avez observé sur le terrain, est-ce qui va un peu être discuté lors de ces 3 jours de restitution?
En fait, ce qu'on a interrogé quand on est arrivé ici et dont on s'est assez rapidement rendu compte, c'est un peu ce que soulignait Venkata, c'est l'intervention publique, malgré tout, donc des politiques d'attractivité qui sont assez explicites et dont on ne sait pas exactement encore quel rôle elles ont joué dans les installations et dans le fait que les gens aient pu rester sur place. Ça revient un peu, ça renvoie à la question des solidarités que tu viens de poser, Yael, c'est-à-dire les solidarités ne sont pas uniquement dans un seul village, elles sont aussi publiques, elles passent aussi par la protection sociale, elles passent aussi par l'offre de santé, l'offre de soins pour les personnes qui en ont besoin à domicile, ça peut passer aussi par une offre de transport, du covoiturage, etc. Et pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses, mais... ce qu'on voudrait vraiment souligner, c'est l'articulation entre ces différents niveaux, ces différentes interventions et ces différents acteurs, et que finalement, entre le public, le marché et les solidarités de proximité, et peut-être la famille, il se construit en permanence sans que ce soit nécessairement un aboutissement des inventions et des formes de solidarité qui émergent selon les besoins. Et c'est là où l'observation des personnes qui ont vieilli sur le territoire, qu'elles soient originaires du territoire ou arrivées plus récemment, est intéressante, puisque c'est un peu une mise à l'épreuve également des solidarités. Par ailleurs, sur les questions des temporalités, alors il y a, dans les différents discours qu'on a entendus sur travailler, pas travailler, prendre son temps, travailler beaucoup pour gagner peu, travailler peu pour gagner beaucoup, enfin, il y a cette question de l'économie qui est toujours en tension avec, malgré tout, l'usage du temps. On a aussi réfléchi à la ligne peut-être fine quelquefois qui peut séparer la frugalité de la pauvreté et qui fait système avec les solidarités, puisque dans une frugalité qui peut quelquefois virer un peu à la pauvreté matérielle, les relations, les solidarités, le plaisir de partager des temps, l'accueil, l'hospitalité, peut faire office aussi de satisfaction. Et donc pour nous, la question de la vie bonne, c'est pas un aboutissement, c'est surtout, on n'a pas d'indicateur, on veut pas juger, nous, si la vie est bonne ou pas bonne. On interroge les gens sur leur niveau de satisfaction, y compris leurs difficultés. On est conscient et consciente aussi qu'on ne voit que des gens qui restent. Donc on ne voit pas nécessairement les gens qui sont partis, qui ont trouvé que la vie bonne était trop dure parfois. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est l'état de conscience, en fait, de responsabilité, de conscience, et les efforts que les gens déploient pour construire une meilleure société. Donc pour faire attention aux autres, pour prendre le temps, pour se montrer solidaire, même si c'est jamais abouti. Donc on est attentive aussi à la recherche d'eux, puisque c'est autant sur la recherche d'eux que sur la vie bonne qu'on essaye de développer des connaissances et des réflexions.
Alors, je peux peut-être compléter avec 2-3 points. Le premier, c'est la première étape de nos entretiens, c'était de questionner les gens sur bon, la vie bonne, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça ne vous parle pas. C'est inégal. Et donc, pour les gens auprès de qui le terme résonne, ça a déjà été dit, mais je le redis, il y a vraiment la question de la nature, de l'espace, de la lumière qui est assez centrale. Il y a aussi la question de l'autonomie. Voilà, on est ici parce qu'on a choisi d'être ici. Il y a la question des liens sociaux, de la convivialité, de la vie sociale. Je pourrais multiplier les termes, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui n'ont pas choisi d'être là, qui n'ont pas pu partir. Il y a aussi des gens qui se sentent isolés. Il y a aussi des gens qui considèrent que c'est un territoire qui est très rude, qui est austère. Il y a aussi des formes de discrimination, diverses et variées, et on ne les a certainement pas toutes vues. Donc voilà, je crois que c'est important d'insister un peu sur ces ambivalences. La deuxième chose, peut-être Blandine a déjà un peu dit, mais je le redis, c'est la question de comment économiquement on vit sur ce territoire. Tout à l'heure, je disais que donc moi, je suis formée comme économiste, mais je me définis comme socio-économiste, et avec l'idée que la manière dont on parle d'économie, la manière dont on enseigne l'économie est quelque chose de très tronqué, avec une vision extrêmement restrictive de l'économie. Et donc j'utilise, alors ça va faire sourire certains membres de l'équipe parce que je me répète un peu, mais là les auditeurs et les auditrices m'ont jamais entendu, donc je peux me permettre de le redire, c'est mon histoire d'iceberg. Alors bon, l'iceberg, ça parle pas beaucoup en Lozère parce qu'il y a pas beaucoup de neige, mais c'est l'idée de dire qu'on considère trop souvent l'économie comme le haut d'un iceberg, et le haut, ce serait des indicateurs dont on entend, qu'on entend régulièrement, le produit intérieur brut, le nombre de chômeurs, l'importance de la population active, etc. Et ça réduit l'économie à une économie monétaire, marchande, visible et quantifiable. Or, si on regarde, et c'est pareil dans toutes les formes d'économie, mais de manière inégale, ce type d'économie, c'est en fait le haut d'un iceberg, et ce type d'économie n'existe. Il existe, il est réel. Les statistiques ne sont pas fausses, mais ce type d'économie n'existe parce qu'il y a un bas de l'iceberg qui est souvent beaucoup plus important que le haut et qui repose sur tout un tas d'interdépendances. Blandine en a déjà parlé, l'interdépendance publique, la redistribution publique, qui dans un contexte comme la France est quelque chose de central, des solidarités diverses et variées. Et dans une économie comme l'économie sud-Lozère, on est vraiment dans un cas de figure où l'iceberg est extrêmement marqué. Alors si on prend le haut, on a un certain nombre d'indicateurs tout à fait intéressants qui vont nous mesurer le taux d'enclavement, qui vont nous dire que la population active du sud de Lozère, il y a moins de cadres qu'ailleurs, il y a plus d'agriculteurs, il y a plus de femmes. On va nous dire aussi, et c'est tout à fait juste, que c'est une économie qui est plutôt résidentielle, c'est-à-dire qui repose sur des activités locales et qui donc dépend moins d'une économie globalisée. On importe moins et on exporte moins. Bon. C'est une économie où il y a aussi un peu plus de pauvres que la moyenne. Bon. Alors tout ça est tout à fait vrai et intéressant. Ce qui nous a intéressé et ce qui, voilà, quand on creuse la manière dont les gens vivent au quotidien, on voit émerger tout un tas d'autres choses. Et en particulier, voilà, je parlais des statistiques classiques sur la population active, hein, qu'on va classer les gens, est-ce qu'ils sont cadres, ouvriers, employés, est-ce que c'est des femmes, des hommes, etc. Et nous, on voit émerger une catégorie, un profil qui ne rentre pas dans ces cases, en fait, qui ne rentre pas dans ces cases, alors qui n'est pas du tout unique au sud de Lozère, hein, et qu'on a intitulé provisoirement « travailleurs ou travailleuses engagés ». Multi-ressources. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont un rapport au travail qui est très singulier et qui ne se conçoit pas indépendamment d'une forme d'engagement. C'est-à-dire qu'on fait un métier qui a du sens, on fait du pain, du bon pain à un prix accessible pour que tous et toutes puissent se le permettre. On travaille un moment et puis on réserve une semaine dans le mois ou une journée par semaine ou 6 mois dans l'année à des activités militantes. Et multi-ressources parce qu'on vit un peu de salariat, un peu de travail indépendant, un peu de subventions publiques diverses et variées, que ce soit dotation jeunes agriculteurs pour des agriculteurs, que ce soit le RSA pour quelqu'un qui est impliqué dans une épicerie solidaire qui ne rapporte pas d'argent. Donc voilà, l'intérêt de travailler de manière qualitative, c'est aussi de bousculer un peu les catégories statistiques et de montrer d'autres réalités. Et peut-être le deuxième point, Blandine l'a dit, on en a reparlé, il y avait une dimension de genre très forte. C'est-à-dire est-ce que cette économie et cette vie dans le sud de Lozère, comment elle est traversée par des rapports de genre? Alors, on n'a pas trop le temps de développer, mais je dirais juste une chose. On a souvent tendance à penser que la famille est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec l'économie. La famille serait... voilà, on se marie, on a des enfants, ou alors on vit en couple, parce que le mariage n'est plus très à la mode, mais c'est un lieu d'affection, de sentiments, plutôt que de questions matérielles. En fait, les féministes ont montré depuis très longtemps qu'il n'y a rien de plus économique que la famille. La révolution industrielle qu'a connue la France et tout un tas d'autres pays ne se serait pas faite sans un modèle familial très singulier qui est celui de l'homme gagne-pain et de la femme au foyer. Alors tout ça est un peu dépassé aujourd'hui, mais ça a quand même beaucoup... ça a eu des répercussions dont on porte encore tout le poids aujourd'hui en matière de législation, en matière de rapport au travail, en matière de rémunération, etc. Et donc, une économie comme celle du sud de Lozère, qui est quand même, qui repose sur tout un tas d'interdépendances et de manière probablement plus marquée qu'ailleurs, elle repose aussi nécessairement sur des types de familles qui sont singuliers, alors pas uniques, hein, mais je prends un exemple. Alors, on n'aime pas trop ces termes, mais on n'en a pas trouvé de mieux, donc pour l'instant, on les utilise. On a quand même deux types de populations ici, hein, même si elles ne sont pas complètement étanches. C'est les populations locales, hein, qui sont ici depuis un certain nombre de générations, et puis ces vagues de néo-ruraux qui irriguent le sud de Lozère depuis les années 70. Donc ces catégories sont problématiques parce qu'elles sont floues et qu'il y a un certain nombre de personnes, on ne sait pas si elles sont néo ou locales, ou il y a quand même beaucoup d'hybridité et de porosité, mais toujours est-il que ça reste quand même assez structurant dans la question du rapport à la terre, dans la question du rapport à un certain nombre de ressources, dans la question de l'occupation de l'espace, etc. Donc on peut quand même difficilement s'en passer tout en les critiquant. Et si je reviens à mes histoires de parenté, on observe un certain nombre de cas de parenté choisie, de parenté de cœur, où on va avoir fréquemment des personnes qui nous disent avoir été adoptées par des personnes du coin, qui leur ont transmis des savoirs, qui leur ont transmis parfois de la terre, qui leur ont transmis l'accès à tout un tas de ressources diverses et variées, et réciproquement. Et donc voilà, exemple typique, je crois qu'on est quand même dans un territoire où il y a vraiment ce regain du territoire, il ne se serait pas du tout fait de la même manière sans l'arrivée de ces populations de l'extérieur, et du coup ça donne nécessairement forme à des formes de parenté hybride qui nous ont semblé intéressantes à observer et à étudier.
Merci. On fait un peu des allers-retours, mais un peu pour mettre en perspective aussi ce que vous venez de développer. On voulait un peu réadresser une question à 24 avant qu'il s'en aille, notamment aussi. Et on revient à cette histoire donc de concept de la vie bonne, et on se demandait si 24, t'as observé un peu juste des similitudes ou des grandes différences ou des choses qui t'ont étonné sur des conceptions qui se rapportent à une bonne vie, une vie bonne, que ce soit ici en Cévennes, en France ou en Inde.
In this project, when we discussed with had a discussion with the people, we asked the question, that direct question, what's good life here? Why are you here?
Okay. Donc quand on questionne les gens et quand on va avoir des conversations et des entretiens avec les personnes, on leur pose la question, qu'est-ce que c'est la vie bonne pour vous et qu'est-ce que c'est la vie bonne ici?
The direct first answer is that the place is safety first. Many people talk about it's a safety place. Next they talk about we have some kind of employment. When we ask that what kind of employment, people are not having a big ambition of a big employment.
Donc la première réponse, c'est souvent la question de la sécurité, de se sentir en sécurité. Et la deuxième réponse, elle concerne l'activité, l'emploi ou l'activité. Mais après, quand on essaye de creuser un peu cette question d'activité, les gens n'ont pas une grosse activité.
Similarly, when we discuss the same question in India, South India, in my field region, the people the same, the women always talk about that. In the rural, we have employment, but this employment does not allow us to have a luxury life, but we keep our self-identity.
Donc en fait, quand il pose la même question dans le sud de l'Inde, il a des réponses qui sont assez proches. Les gens disent, on a un emploi, on a donc une forme de sécurité économique, même si ce n'est pas quelque chose qui nous permet d'avoir une vie luxueuse. Mais la sécurité passe aussi par le sentiment d'identité de soi.
And the next very interesting discussion people mentioned is that, you know, here there are different government projects, mainly thanks to maybe that this kind of, you know, touristic place declared by the park, or also that, you know, there are specific government projects addressing to these migrants who are coming to the region.
Donc ici, il a été assez frappé et intéressé par les différents projets institutionnels, donc du gouvernement, différents niveaux de gouvernement, et en particulier des institutions comme le parc, qui sont adressées aux migrants, donc en fait les néo-ruraux, enfin lui dit migrants, qui arrivent dans la région.
We also have this kind of same policy in India. Now they call it as a rural tourism, but it doesn't have a big attraction because the urban people, they don't want to take rural as a kind of touristic destination.
Donc là, la question de la vie bonne, elle se mélange aussi avec la question du tourisme, en fait, d'en faire une région attractive. En Lozère, les politiques publiques d'attraction visent également le tourisme ou passent par le tourisme ou ça s'articule avec les questions touristiques comme pour le parc. Alors qu'en Inde, pour l'instant, les zones rurales ne sont pas des zones attractives du point de vue touristique.
Surprisingly, I see that in this region, even the young people know they want to come back to this region and talk about that. So this place, I have something which I cannot able to explain, but I love the place, so I settle come here, which we will not see in Indian rural setup. In the Indian rural setup, we cannot see this, the young people come back to the village and settle their own life.
En fait, une différence qui le fait réfléchir aussi, sur laquelle on n'a pas de réponse, puisque notre travail, ça c'est mes commentaires, notre travail de recherche est presque plus de poser les questions que d'avoir forcément des réponses. Je ferme ma propre parenthèse. Donc lui dit, c'est aussi que les jeunes, en fait, viennent construire une autre vie et viennent ou reviennent pour construire une autre vie, alors qu'en Inde, on a moins cette initiative de la part des plus jeunes.
Still, you know that in India, most of the families are joint families. The son works abroad or working in the urban, and he supports the parents or the extended families in the rural. I don't see that kind of, you know, that people earn from urban and send money or capital to the village. Yeah.
Donc le modèle en Inde que lui voit le plus souvent, c'est encore un modèle dans lequel un fils va aller dans les zones urbaines avoir un emploi salarié et envoyer de l'argent au reste de sa famille qui sera restée au village, et en particulier à ses parents vieillissants, dans un contexte où les familles sont assez nombreuses, donc ça peut être plusieurs fils. Lui ne voit pas ça ici.
And the other institution what I observed is that, you know, the village market here. Village markets are Thursday market, for example, that, you know, it is well organized, and it even people there are people are coming to the market just to see each other, whether they are buying product or not. They come and sit for 2-3 hours, and it is a, some kind of meeting place. We can see similar in Indian cases also.
Donc autre chose qui lui paraît ressembler, enfin dans la comparaison, si on peut la faire entre les deux régions, c'est que les, le marché est un lieu, par exemple le marché du jeudi à Florac, est un lieu non seulement pour acheter et pour vendre, mais également pour se rencontrer, pour établir des relations et retrouver les gens, et que les gens peuvent aller au marché simplement pendant 2-3 heures pour discuter, papoter, prendre un café. Et ça, c'est quelque chose qui se... qui ressemble avec les régions d'Inde du Sud qu'il étudie.
Other fascinating thing is that, you know, people can able to produce their own product and can able to market in the name of bio or not necessarily a bio, but people can market in this rural itself. We can see in the similarity in Indian case also, where the farmers can bring their own goat or cow and also agriculture product easily market it. The reason is that, you know, it is not the product is not available, but the people are appreciating the product is coming from my own region.
Donc autre chose qui a attiré beaucoup son attention et qu'on peut faire relever de la vie bonne pour tenter de répondre à la question, c'est qu'il y a sur les marchés, il y a beaucoup de produits qui viennent en fait de production locale où les gens produisent eux-mêmes des produits agricoles, du pain, des produits animaux, des fromages et vont les vendre eux-mêmes sur le marché. Et que de l'autre côté, il y a beaucoup de clients de chalands qui vont sur le marché pour acheter ces produits locaux exprès en fait, avec une intention. Et pour lui, ça relève également de ce qu'on peut appeler la vie bonne et ça se passe également en Inde.
Though there are different state policies in this region, but I think the future of this region is that, you know, how the people trust each other and how this trust can attract the new population, new people, either new, neo or the migrants.
Donc lui voit un élément assez important et crucial pour l'avenir de la région, c'est aussi la question de la confiance en fait de l'institution, de la pratique et du sentiment de confiance entre les gens et de quelle façon cette confiance peut à la fois attirer des migrants ou des néo-ruraux dans la région. Et donc la qualité relationnelle aussi.
Merci, 24, Isabelle et Blandine. Et ben on aperçoit déjà... la particularité de cette équipe de 10 chercheuses d'horizons différents, à la fois de pays différents et de regards différents. Voilà, on a déjà une petite idée de tout ce qui a pu se passer comme observation cette année. Et ben on va continuer à en parler et à parler des 3 jours à venir et des discussions qu'il pourrait y avoir dans les 3 jours à venir, après une petite pause musicale avec Flavia Coelho, Bossa Muffin, qui est un son qui a bercé nos adolescences en Lozère.
C'est parti.
Num dia de chuva ele disse: tem que ter, jogar com a sorte, coragem, um braço forte, jogar com a sorte. Consigo conquistar com de viver e viajar e conhecer o mundo. Não vale a pena explicar. Eu digo que ele tem desses mistérios profundos que aprendeu na marra, na mata, com um índio guarani do terceiro mundo. Foi na África, viu Bangladesh, dormiu com o deus Ganesh, ficou intrigado, quis ver com seus próprios olhos um arco-íris. Diz que essa viagem só o ajudou a descobrir povos desconhecidos que disseram pra ele que o homem é seu próprio inimigo. Consigo conquistar com povos esquecidos que o levaram numa cabana de bambu num lugar perdido. E tem que se adaptar, tem que comer tudo que oferecem, agradecer o dia fazendo uma prece. E depois de tanto viajar, decide que tem que acalmar,
com o braço forte. Ha! E tem que contar com a sorte. E contar com a sorte. Oh, oh.